Ézéchiel chapitre 36, Ézéchiel chapitre 36, dont nous lirons trois versets, les versets 25, 26 et 27. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. C'est le Seigneur l'Éternel qui parle. « Je répandrai sur vous une eau pure. » Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Nous allons vers notre passage de Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte logique. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et simplement un dernier verset dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Hébreux chapitre 12, il s'agit du verset 14, Hébreux 12, 14. Recherchez avec ardeur, c'est un terme extrêmement fort dans le texte grec, recherchez avec ardeur la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Après avoir, avant-hier soir, considéré l'importance capitale de l'épître de Paul aux Romains, nous avons commencé à nous pencher sur ce que nous avons appelé la philosophie du salut. Cette sorte de véhicule à quatre roues qui parcourt les huit premiers chapitres de cet épître. Et le premier soir, nous nous sommes arrêtés en particulier sur la première de ces roues. Cette déclaration de la culpabilité du monde entier face aux exigences de Dieu dans sa justice, dans sa sainteté, dans son essence même. Condamnation universelle. Condamnation universelle liée à la dépravation totale de l'homme qui commence au niveau du cœur, épicentre de la personne, quartier général de l'individu, et qui continue avec le corps tout entier, c'est ce que nous dit le chapitre 3, intelligence, main, langue, pied, yeux, bref, la totalité de la personne humaine est contaminée par le virus du péché. Et nous avons remarqué à la lumière d'Ésaïe 33, versets 13 à 16, que personne ne peut séjourner dans la compagnie de ce feu dévorant qu'est Dieu dans sa sainteté. Personne sur la terre ne peut prétendre se tenir auprès des flammes éternel, sans être consumé immédiatement par la sainteté de Dieu. Nous sommes tous coupables, sans exception. Hier soir, nous avons touché à ce que nous pourrions appeler le pivot de cet épître aux Romains qui couvre les chapitres 3, versets 21 à 5, 21. Le pivot de toute l'histoire de l'homme depuis la chute, un message absolument extraordinaire, le message de la justification. Ce Dieu trois fois saint, comme le disent les séraphins qui volent autour du trône de la sainteté parfaite, de la gloire, de la pesanteur insoutenable du Seigneur, Ésaïe chapitre 6, saint, saint, saint. Et l'éternel des armées, ce superlatif absolu, une des caractéristiques de la langue de l'hébreu, lorsqu'on veut porter une valeur à son summum, lorsqu'on veut exprimer quelque chose avec la plus grande force qui soit pour montrer qu'on ne peut pas aller plus loin, eh bien on va le répéter deux fois lorsque c'est important, mais alors lorsque c'est d'une hyper importance, on le répétera trois fois. Le Dieu trois fois saint. Ce Dieu totalement autre, totalement différent, ce Dieu aux antipodes. Ce Dieu qui ne se confond pas avec sa création, qui est séparé d'elle par un fossé absolument infranchissable. Et nous disons non ici à ce panthéisme qui se répand par le travers, le canal de ce qu'on appelle le Nouvel Âge, n'est-ce pas ? Dieu est tout et tout est Dieu. Nous faisons partie de l'infiniment Dieu. Nous sommes Dieu en partie. Et nous entrons dans un ensemble qui est Dieu. Non ! Être saint, c'est être séparé. Et le Dieu saint est un Dieu séparé de sa création, qui ne se confond pas un seul instant avec elle. Et ce Dieu trois fois saint ne saurait tenir le coupable pour innocent. Ce Dieu parfaitement pur a manifesté son amour, qui fait partie de sa sainteté. J'ai mis des années à le reconnaître dans les Écritures. Que la sainteté, c'est l'essence même de Dieu. et que c'est à l'intérieur de la sainteté que se manifeste ce joyau extraordinaire de son amour. Et ce Dieu saint a trouvé le moyen, avait le moyen d'ailleurs dès l'éternité passée, mais l'a manifesté. Il a manifesté son amour tout en restant totalement juste. Il justifie, il innocente, il acquitte, il accueille le pécheur coupable et perdu. Il le déclare absolument juste. Il ne le rend pas juste. Il n'y a pas une sorte de coup de baguette magique qui ferait que l'homme est subitement transformé dans sa nature et dans son essence. Non, pas du tout. Il le déclare, c'est un acte juridique. C'est enregistré en quelque sorte dans les registres du ciel. Pour l'éternité. Je suis déclaré juste. La justice de Jésus-Christ m'est communiquée parce qu'il a pris sur lui la condamnation qui pesait sur moi. Il a endossé pleinement ma culpabilité. Il a pris mon péché en totalité, dans sa nature et dans ses effets, dans ses expressions, sur lui, dans sa mort sur la croix. Cadeau fantastique. Jésus-Christ a été puni à ma place, il a payé la rançon, la rédemption, le rachat d'un esclave, d'un prisonnier, au moyen d'une rançon, n'est-ce pas ? Et cette rançon, c'est son sang, c'est sa vie qu'il a donnée pour moi. Voilà ce que nous avons vu hier soir. Ce Dieu qui ne passe pas l'éponge, parce que s'il avait passé l'éponge, il aurait été injuste dans sa miséricorde. Ce Dieu qui n'est pas implacable, et qui punit systématiquement le pécheur parce que sa justice aurait été implacable et froide. Or, la justice de Dieu est marquée au coin de son amour. Et enfin, nous terminions hier soir en soulignant qu'il n'y avait qu'un seul moyen de s'approprier cette justification, la foi. La foi. Cette main du cœur qui saisit les réalités de l'esprit, qui s'empare des déclarations d'un Dieu qui ne ment pas et qui se les applique humblement pour honorer ce Dieu fidèle à sa parole. Tout le chapitre 4 qui suit cette proclamation extraordinaire de la justification par la foi, tout le chapitre 4 sert à nous enseigner un fait très important, c'est que la justification par la foi est déjà enseignée dans l'Ancien Testament. Oh, nous n'allons pas développer. Mais l'apôtre Paul, cet ancien rabbin qui peut-être connaissait l'Ancien Testament par cœur, va simplement prendre deux exemples éminents. L'un se situant quelques 500 années à peu près avant la promulgation de la loi, l'autre se situant environ 500 ans après la promulgation de la loi au Sinaï. Et il va passer pas mal de temps dans le chapitre 4, à se pencher sur la justification de la foi dans la vie d'Abraham, qui ne sera pas reçu dans le ciel sur la base simplement d'œuvres méritoires, mais simplement parce qu'il a pris Dieu au mot et que humblement il a su plaider coupable, reconnaître qu'il ne pouvait pas avoir accès par ses propres forces dans le ciel de Dieu. Et il a accepté de se confier dans un certain nombre de paroles solennelles et de promesses solennelles de Dieu en sa faveur. Mais avant d'évoquer simplement un point concernant Abraham, l'apôtre Paul va simplement citer au passage David, qui, comme Abraham, va être déclaré juste, acquitté, innocenté par sa foi dans les déclarations divines concernant le pardon. Et nous avons un extrait du psaume 32 dans ce chapitre 4. Il s'agit des versets 7 et 8. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché, ou au compte duquel Dieu ne met pas son péché. Et il s'agit des deux premiers versets du psaume 32. Ce psaume que l'on met généralement, et je crois à juste titre, en relation directe, comme le psaume 51, avec cette chute terrible dans ses conséquences, dans ses effets, de David au sommet de sa gloire, dans l'adultère avec Bathsheba. Et si j'y fais allusion, c'est parce que après ces versets 1 et 2, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude, David va très honnêtement évoquer les dégâts provoqués par le refus de reconnaître son péché au niveau de son corps. Ce sont les versets 3 et 4. Il parle de ce drame qui appartient à ce qu'on appelle aujourd'hui le psychosomatique, c'est-à-dire les effets de ce qui se passe dans l'intérieur de l'être humain, au plan de l'esprit, de l'âme, et qui a des effets sur le corps. Et parce que David, pendant plusieurs mois, près d'une année sans doute, a lutté contre l'action du Saint-Esprit qui, dans son cœur, plaidait pour qu'il se reconnaisse coupable. Puisqu'il a eu résistance chez David, il dira : tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Faut-il le dire ce soir ? Nous avons fait cette expérience. Peut-être certains d'entre nous la font-ils en ce moment. Alors que Dieu nous invite, nous exhorte avec un amour inlassable à offrir nos corps en sacrifice vivant. Hélas, parfois, nous laissons nos corps se détruire à cause d'une culpabilité non reconnue, de péchés non confessés. d'une résistance à l'action du Saint-Esprit qui veut nous conduire à plaider coupable. Et puis, comme en contraste dans Romains 4 avec ce que nous venons de dire, nous avons l'exemple de la justification par la foi d'Abraham avec ses effets dans la vie d'un vieillard et de sa chère épouse Sarah. À cause de leur obéissance. Et nous lisons dans le chapitre 4, à partir du verset 17, c'est Dieu qui parle et c'est écrit dans l'Ancien Testament, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Abraham est notre père, devant celui auquel il a cru. » Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant, contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, « Telle sera ta postérité. » Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point ou il considéra. Cela dépend des manuscrits. Les manuscrits retenus, notamment à partir de certaines découvertes, parce qu'il y a bien sûr des recherches qui continuent face aux milliers de manuscrits qui traitent du Nouveau Testament, certains manuscrits disent, n'est-ce pas, il considéra son corps déjà usé. En fait, ça veut dire la même chose. Et je vais vous l'expliquer dans un instant. Il ne considéra point, il considéra son corps étant déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Voilà un couple qui est en pleine décrépitude physique. D'ailleurs, le vocabulaire utilisé dans le texte original est très très intéressant. Nous avons des mots comme « déjà usé », « presque mort », on dirait aujourd'hui « un pied dans la tombe ». Nous avons Sarah qui n'était plus en état d'avoir des enfants, littéralement « l'état de mort » du sein de Sarah. Voilà donc un couple qui, au niveau du corps, allait très mal. Elle était stérile. Ils étaient tous deux très âgés. Et Dieu leur avait fait des promesses. Et une promesse essentielle, fondamentale, celle de leur donner une postérité qui serait directement issu de leur union conjugale. Ce qui faisait pas mal rire le couple. Manifestement, Abraham et Sarah aimaient rire ensemble. Mais ce qui est extraordinaire, et je peux imaginer en quelque sorte la scène, j'imagine que cette histoire se passe aujourd'hui, dans nos maisons modernes, et que Abraham est dans la chambre conjugale, ce jour-là il est tout seul, il a une magnifique armoire à glace en face de lui, et dans son vêtement le plus économique qui soit, il se contemple. Il se regarde du haut en bas parce que le terme « considéré » qui est utilisé au verset 19 ici, c'est un terme grec qui était utilisé à l'époque de rédaction du Nouveau Testament pour évoquer un regard très attentif qui s'efforce de percer en quelque sorte le secret des astres. Un examen extrêmement précis, approfondi, et même qui balaye de haut en bas. Alors vous imaginez notre ami Abraham, presque centenaire, qui se regarde dans le miroir, du haut en bas, et qui commence à rigoler. Il dit, Seigneur, c'est pas possible. Une postérité qui vienne de moi, et regarde dans quel état je suis. Et puis subitement, il a un éclair d'illumination, d'intelligence extraordinaire. Chérie, ma Sarah, chérie, viens vite. Et il introduit sa chair et tendre dans la chambre conjugale. Elle dit, écoute, excuse-moi, mets-toi en face de moi. Elle se demande si l'âge n'est pas en train de jouer des tours à son mari. Puis il la regarde et il la regarde du haut en bas. Et puis il rit une deuxième fois. Oh ma chérie, mais c'est pas possible. Moi je suis vieux et toi tu es complètement délabré. Je n'invente rien. Si vous lisez Genèse 18, le terme utilisé par Sarah pour évoquer son état physique, c'est un terme hébreu qui veut dire « je suis une ruine ». Tu es une ruine, ma Sarah. Et en plus de ça, tu es stérile. Alors à nous deux, hein, franchement, c'est pas brillant. Pour avoir un enfant selon la promesse de Dieu. Alors, vous comprenez, il considéra, il regarda de haut en bas sa propre personne, la personne de sa femme. Et ensuite, il ne considéra pas. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas arrêté sur ce regard. Ce regard aurait pu être l'obstacle à la foi. Ce regard aurait pu engendrer l'incrédulité. Mais pas du tout. Malgré cela, il a espéré contre toute espérance et malgré cela, il a cru que Dieu allait accomplir sa promesse. Il a en quelque sorte reconnu devant Dieu que son corps, en aussi mauvais état soit-il, et le corps de son épouse en si mauvais état soit-il, n'était pas un obstacle à l'accomplissement des promesses de Dieu. Offrez vos corps. Ça, c'est le message pour ceux et celles qui disent, mais offrir mon corps. Seigneur, mais regarde dans quel état je suis. Qu'est-ce que tu peux encore tirer de moi ? Si je m'étais donné à toi quand j'avais 15 ans, d'accord, mais Seigneur, c'est à 75 ans que je me suis donné à toi. À quoi Dieu nous répond, mais marche sur les traces de celui qui dans Romains 4 est appelé le Père des croyants. Parce que ce n'était pas mieux chez lui. Et pourtant, de lui est issue une postérité qui a abouti à la personne de Jésus-Christ. Donc, on offre son corps à tout âge. Et en fait, nos diminutions dans le domaine physique, cette fragilité qui s'installe de plus en plus dans ce vase de terre, dans cette tente passagère, ne sont pas un obstacle dans la vie de celui qui est justifié.
nous n'avons pas d'excuses. Et nous devons nous sentir encouragés ce soir. Qui que nous soyons, quel que soit notre état au niveau de notre personne, nos yeux fatigués, nos oreilles qui entendent mal, notre voix qui se bloque, notre dos qui se bloque aussi, et tout le reste. Et croyez-moi, nous, depuis le mois de janvier, ma chère épouse et moi, nous en avons dégusté. Nous étions en janvier au Sénégal, parce que nous avons un programme annuel d'enseignement là-bas, à Dakar et parfois en d'autres lieux. Et notre séjour cette année au Sénégal a été encadré par deux problèmes de santé. Et comme nous aimons beaucoup travailler ensemble, ben on a travaillé aussi ensemble dans ce domaine, comme cette fois-ci. La veille du séminaire que je donnais à Dakar, nous étions sur une piste en très mauvais état, et l'ami missionnaire qui nous conduisait n'a pas vu une sérieuse dénivellation sur la piste. Nous avons fait un bond extraordinaire, mais en retombant, j'ai démarré une lombalgie. Et pour ceux qui savent ce qu'est une lombalgie, aïe aïe aïe, il m'est arrivé de rester 3 semaines allongé sans bouger. Or, le lendemain commençait le séminaire. Nous avons vu la grâce de Dieu de manière absolument extraordinaire. Oh, certes, ça n'a pas été facile. Mais ça a permis que je sois obligé de dépendre de Dieu comme jamais, n'est-ce pas? Et puis, une fois que le séminaire était fini, ma chère épouse a pris le relais. Nous sommes allés sur une île au large de Dakar. Et là, subitement, en me retournant sur un chemin qui montait, j'ai vu ma chère épouse complètement recroquevillée sur elle-même dans un fossé à quelques mètres de moi. Et le sang qui coulait, elle venait de heurter violemment un mur de pierre après avoir culbuté. Et comme elle a été opérée des genoux, du dos, etc., n'est-ce pas? Mon cœur a battu la chamade. Mais là encore, la grâce de Dieu a été extraordinaire. Nous venions de dépasser un dispensaire, le seul dispensaire de l'île. 1 minute en dessous. Nous y étions, dans les instants qui suivaient, soignés, sur mesure, à l'heure la plus chaude de la journée, et pouvant offrir un magnifique calendrier de la bonne semence à l'infirmière sœur catholique qui était au 7e ciel en recevant ce cadeau. Dieu savait pourquoi. La grâce de Dieu qui travaille dans des corps fragiles. Offrez vos corps. Dieu ne nous demande pas d'offrir le beau corps d'un jeune homme ou d'une jeune fille de 17, 18 ou 20 ans. Non. Seigneur, je te donne ce que je suis, avec toutes mes fragilités. Oh, qui crée des angoisses dans mon cœur, mais qui m'oblige à compter continuellement sur ta grâce. Il faut que tu me portes, sinon je ne tiendrai pas la route. C'est un des messages de Romains au chapitre 4. Alors nous n'allons pas évoquer le chapitre 5, toute cette question d'Adam et du nouvel Adam, le Christ. Mais nous allons venir maintenant à la sanctification. La condamnation et la justification, nous l'avons dit, soulignent notre besoin absolu de l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. La justification, c'est l'entrée dans le salut. Ce sont les fondations de la vie chrétienne, les racines de l'arbre chrétien. À partir du chapitre 6 et jusqu'à la fin du chapitre 8, nous avons ces deux autres roues motrices, sanctification et glorification, qui soulignent l'œuvre de Jésus-Christ en nous. La vie chrétienne, dans son développement actuel, c'est la sanctification, et dans son épanouissement éternel, c'est la glorification. Et en réalité, nous pouvons dire que la sanctification, c'est le salut lui-même. C'est ce que nous pourrions appeler la superstructure de la vie chrétienne. C'est l'arbre lui-même. Jusqu'à présent, avec la justification, nous nous sommes penchés sur les racines. Maintenant, au-dessus des racines, il y a la vie qui se développe, n'est-ce pas, un arbre avec son tronc et ses branches, ses fleurs et ses fruits. La Bible contient plus de 650 références à la sanctification. C'est un thème fondamental. La sanctification, c'est la sainteté de la vie. Mais c'est la sainteté de la vie avec une dimension et une idée de progression. De progression vers un but. Vers un but de perfection sur la base d'une provision qui est déjà complète au départ. Dieu nous a donné tout ce qui était nécessaire pour que nous atteignions le but. La provision nous est déjà acquise pour tout le programme de sainteté dans son développement, jusqu'à ce que nous soyons auprès du Seigneur. Un prédicateur du XIXe siècle a donné cette définition remarquable. La justification est un acte divin achevé une fois pour toutes. La sanctification est une œuvre de Dieu qui a débuté à la régénération, à la nouvelle naissance, et qui se poursuit tout au long de la vie, s'achevant à la mort. La première, la justification, est identique et parfaite en tous. Tous ceux qui sont régénérés sont justifiés de la même manière, au même titre, une fois pour toutes. La seconde, la sanctification, n'est pas la même en tous et n'atteint la perfection en personne aussi longtemps qu'il vit dans la chair. Dans la justification, Dieu porte la justice de Christ au compte de l'homme. Dans la sanctification, Dieu accorde la grâce qui rend capable de traduire cette justice. Il y a donc une idée de progression. L'apôtre Paul, de la part de Dieu, va commencer par poser le principe de la sanctification dans Romains 6 et dans les 11 premier verset. Et il commence par une affirmation solennelle, très forte. Je crois entendre l'apôtre Paul dire cette affirmation. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là ! nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Qu'est-ce à dire ? La pratique habituelle du péché est inadmissible dans le croyant. La pratique habituelle du péché est inadmissible chez le croyant. Inadmissible. Oh, tout d'abord, faut-il le dire, parce que c'est mon péché qui a cloué Jésus-Christ sur la croix. Et si nous voulons savoir ce que Dieu pense de la gravité du péché, nous avons rendez-vous à Golgotha. C'est là que nous prenons toute la mesure de l'horreur que Dieu a de mon péché. Le péché doit être terriblement grave pour qu'une croix se soit un jour dressée à l'écart de la cité de Jérusalem et que le Fils de Dieu, le Fils unique et bien-aimé de Dieu lui-même, ait dû mourir d'une manière aussi ignoble par notre main à tous. Et notre problème, c'est que l'Église de Jésus-Christ, trop souvent aujourd'hui, et j'en suis, relativise terriblement la gravité du péché. Nous sommes devenus très légers au sujet du péché. Disons-le, c'est un thème que l'on n'aime pas du tout aborder aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ. Un homme de Dieu d'un passé lointain a écrit ceci: « Le péché est une présence explosive et toute puissance s'étiole, fane et disparaît dans sa chaleur destructrice. Chaque délice spirituel est vaincu par son toucher malveillant. Le péché affaiblit la vision et conduit à l'aveuglement. Le péché engourdit, lui, et tend à rendre les hommes sourds. Le péché pervertit le goût et amène les hommes à confondre le sucré avec l'amer et l'amer avec le sucré. Le péché durcit le toucher et tôt ou tard rend un homme insensible. » Voyez, tout le corps y passe. Ce sont toutes des analogies scripturaires et leur signification commune semble être celle-ci: le péché bloque et étouffe les sens délicats de l'esprit. À cause du péché, nous devenons insensibles, nous perdons toute perspicacité. Le péché engendre l'endurcissement, il anéantit ainsi notre sensibilité à la douleur. Et vous le savez, dans les Écritures et dans l'Ancien Testament en particulier, dans le Lévitique par exemple, chapitre 13, chapitre 14, la lèpre est une puissante image du péché. Et à juste titre, c'est un médecin croyant, authentiquement disciple de Jésus-Christ, le docteur Paul Brand, qui a été médecin missionnaire pendant de très très longues années, notamment à Vellore, grand hôpital missionnaire fondé par une femme missionnaire, le docteur Ida Scuder, femme remarquable, où toute la chirurgie, notamment de la main lépreuse, a été mise sur pied par ce docteur Paul Brand. Et c'est lui, Paul Brand, qui a déclaré en premier que la perte des doigts et des orteils chez les lépreux était principalement causée par l'infection et les blessures, mais il a démontré que les dommages causés à ces tissus se produisaient parce que le patient ne percevait plus la douleur. Si bien qu'un lépreux pouvait se réveiller un matin ayant perdu tous ses doigts de pied, rongé par les rats pendant la nuit, sans qu'il s'en soit rendu compte. Pourquoi ? Parce que la lèpre attaque le système nerveux central. Et donc, la personne devient insensible. Si vous étiez déjà à Christ. Subitement, dans le programme, vous avez vu une femme légèrement dévêtue. Vous vous êtes précipité pour éteindre ce poste. Vous étiez troublé. Vous avez dit, Seigneur, je te demande pardon. Aujourd'hui, c'est peut-être un défilé de femmes nues que vous regardez et ça ne vous fait plus rien du tout. Et vous dites, mais non, le péché ne m'influence pas. La preuve, ça me laisse insensible. Le seul problème, c'est que dans la vie courante, vous ne regardez plus votre épouse de la même manière et que peut-être demain, vous allez tomber facilement dans l'impureté, dans l'adultère, que vos nuits vont être peuplées de rêves lascifs, que vous allez cultiver le fantasme. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mes amis, c'est ça le problème de l'Église de Jésus-Christ dans nos pays aujourd'hui. Nous, nous sommes habitués au péché. Alors, disons-le ce soir, la pratique habituelle du péché est inadmissible chez le croyant. Parce que non seulement nous avons été délivrés de la condamnation du péché, mais nous avons été délivrés de son pouvoir. Nous avons été délivrés de sa puissance. En attendant d'être bientôt délivrés de sa présence. Oh, j'attends. J'attends avec soupir. Ce moment où je serai délivré à jamais de la présence du péché. Mais en attendant, je sais que je suis délivré de sa puissance. Nous sommes morts au péché. Vous êtes morts au péché dès le verset 2. Et ceci va revenir tout au long des versets qui suivent. Et si j'ajoute, c'est une petite note de conjugaison, que le temps qui est utilisé dans le texte grec, n'existe pas en français. C'est un temps qui a cette particularité d'être utilisé pour affirmer des faits historiques qui sont accomplis. C'est un fait, et dans Romains 6, 1 à 11, à 11 reprises, ce temps qu'on appelle l'aoriste est utilisé. Donc, quand il est dit que nous sommes morts au péché, cela s'inscrit dans le passé. Nous faisons un bond de pratiquement 2000 ans. Nous sommes morts au péché lorsque Jésus-Christ mourait au péché sur la croix. Il ne mourait pas au péché, lui, parce qu'il était pécheur. Mais il mourait pour payer le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Jésus-Christ a payé un salaire au péché. Ce salaire, c'est sa mort. Il l'a payé à ma place. Il est mort au péché pour moi. Et quand Christ mourait au péché sur la croix, je mourais au péché dans la mort de Christ sur la croix. C'est fait. C'est accompli. C'est inscrit dans le passé. C'est un aoriste. C'est le principe de la sanctification, Romains chapitre 6, versets 1 à 11. Un prédicateur bien connu était en voyage en terre d'Israël et il visitait l'un des lieux présumés mais non certain de la résurrection de Jésus-Christ. Et bien sûr, de sa mort sur la croix à quelques pas de là, ce qu'on appelle le calvaire de Gordon. Et il avait un guide arabe. Et à un moment donné, il s'est tourné vers ce guide arabe et lui a dit, écoutez, j'aimerais que vous me conduisiez sur cette petite éminence, sur cette colline, endroit présumé, ce n'est pas ainsi qu'il l'a dit, où Jésus-Christ a été crucifié. Alors, dans un premier temps, le guide arabe était tout à fait réticent, s'est opposé, a levé les bras au ciel, et finalement, devant l'insistance de cet homme de Dieu, il a cédé à sa détermination et il l'a conduit jusque-là. Et puis à un moment donné, le guide s'est tenu en arrière, a laissé cet homme de Dieu faire quelques pas et l'a observé. Alors qu'il était très ému, il a enlevé son chapeau, il a courbé sa tête. Bouleversé. Si bien que le guide, finalement, de lui dire, mais monsieur, je vous vois très troublé, seriez-vous déjà venu ici auparavant? Et le pasteur de répondre, oui, je suis venu ici il y a près de 2000 ans. J'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort au péché. Je pense à ce missionnaire qui quitta Liverpool, une des villes d'Angleterre, sur un bateau à destination de la côte africaine pour y servir Christ. Il change de bateau dans un des ports côtiers d'Afrique, monte à bord d'un remorqueur pour se rendre dans une région qui était infestée par la fièvre, parce que c'est là qu'il était envoyé par le Seigneur pour lui consacrer le reste de sa vie. Et alors qu'il était en train de changer donc de bateau, il tombe sur un ancien marchand d'esclaves qui, avec cynisme, critique la décision du missionnaire en lui disant « Mais vous savez, monsieur, si vous allez dans cet endroit, vous mourrez. » Et le missionnaire simplement de répondre avec douceur « Vous savez, monsieur, je suis mort avant même d'avoir quitté Liverpool. Je suis mort. Nous sommes morts au péché. Moi, Maurice Decker, je suis mort au péché il y a bientôt 2000 ans. Je suis uni à Christ. Je suis uni à Christ dans sa mort. Dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Cela s'appelle dans les Écritures le baptême du Saint-Esprit, qui correspond donc à la régénération. Uni à Christ, dans sa mort, dans son ensevelissement, dans sa résurrection. Et un jour, j'ai exprimé cette réalité spirituelle en passant par les eaux du baptême, en descendant dans l'eau, en disparaissant sous l'eau, en ressortant de l'eau. J'ai exprimé ma mort en Christ au péché, mon ensevelissement avec lui et ma résurrection et mon entrée dans une vie nouvelle, la vie du Christ ressuscité. C'est là simplement ce que Paul exprime à l'Église de Jésus-Christ à Rome dans ses premiers versets de Romains 6. nous avons rompu avec le péché. Nous ne lui devons plus rien. Je ne dois plus rien au péché. Je n'ai plus de dette à l'endroit du péché. Le péché ne peut pas se présenter à la porte de mon cœur en me disant « Maurice, tu me dois quelque chose. » Parce que je vais lui répondre « Le Seigneur a payé. » Il a tout payé. Alors laisse-moi tranquille. Nous disons clairement non au péché. Pour vivre une vie de résurrection avec Christ, le péché ne doit plus régner dans nos corps et dans notre personne. Oh, que Dieu inscrive cela en lettres de feu dans nos cœurs. Pour que ça ne reste pas une simple théorie que l'on va emmagasiner en plus des autres dans notre ordinateur intérieur et qu'on va mettre en sauvegarde sur une disquette pour le retrouver si jamais on arrivait en panne à un moment donné, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. Redisons-le, c'est un fait historique. C'est une réalité acquise, accomplie une fois pour toutes. Puisqu'au verset 11, il est dit de manière très claire, Romains 6, 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Et Paul, qui savait très bien la signification des mots, n'a pas choisi n'importe quel mot. Il a choisi un mot du langage comptable. Il fait de la comptabilité. « Considérez-vous comme. » Prenez en compte, tenez compte de, reconnaissez une vérité existante comme si c'était une vérité mathématique, comme si vous faisiez de la comptabilité. Il s'agit donc de commencer par un acte de foi. Seigneur, je crois. Je crois vraiment. Quand ton fils bien-aimé, il y a 2000 ans, je suis mort au péché. Et que je n'ai plus de dette envers lui. Je n'ai plus à lui payer un quelconque salaire. C'est Galates 2:20, n'est-ce pas, qui le dit, nous l'avons cité tout à l'heure. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans ce verset 20, ce n'est pas ce fameux temps aoriste que nous avons évoqué tout à l'heure qui est utilisé. Ce temps de l'histoire, de l'événement. C'est un autre temps, le parfait, mais qui en grec a un sens très particulier. C'est quelque chose qui est arrivé à un moment donné de l'histoire, mais dont l'effet se prolonge tout au long des temps. C'est-à-dire qu'on peut traduire ce début de verset 20 de cette manière, « J'ai été crucifié et je suis crucifié avec Christ. » Parce que j'ai été crucifié avec Christ il y a 2000 ans, je peux, chaque jour d'aujourd'hui, vivre crucifié avec Christ. Parce que désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous vous souvenez de notre ami Saint Augustin ? Dont nous disions avant-hier soir qu'avant sa conversion au Christ par Romains 13, il menait une vie dissolue. Il avait eu plusieurs maîtresses, au grand désespoir de sa mère, Monique, qui connaissait déjà Jésus-Christ, qui priait ardemment pour lui, qui essayait de le protéger de toutes ses frasques. Il avait des enfants naturels. Il était insatiable dans son ardeur de sexualité déviée,
Et puis voilà qu'il rencontre le Christ et peu de temps après sa conversion, une des femmes avec qui il avait vécu précédemment l'interpelle dans la rue. Et il fait le mort. Il ne lui répond pas. Alors elle persiste, elle insiste. Augustin ! Et finalement, comme il continue à faire le mort, elle se met à lui courir après. Et en arrivant assez près de lui, elle lui dit, mais Augustin, c'est moi ! Et Augustin de répondre, je sais, mais ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Et il aurait pu continuer. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Tu n'as plus affaire au moi que tu as connu. Parce que maintenant Christ triomphe dans ma vie. Nous avons vu rapidement le principe de la sanctification. Quelques mots avant de terminer sur la pratique de la sanctification qui couvre Romains 6, 12 à 7, verset 6. Passage dans lequel, en quelque sorte, l'apôtre Paul dira de la part de Dieu aux membres de l'Église de Jésus-Christ à Rome, devenez ce que vous êtes. Expérimentez dans votre vie de tous les jours votre mort avec Christ au péché et votre vie de résurrection. Message qu'il va dire en d'autres termes. Par exemple, dans Colossiens chapitre 3, verset 1 à 11, vous êtes mort, nécrosé. Pratiquez cette mort dans le quotidien de votre vie. Vous êtes ressuscité, revêtez-vous. Revêtez-vous quotidiennement de cette vie de résurrection. Deux illustrations pour le comprendre. Oh, elles valent ce qu'elles valent. À la nouvelle naissance, Dieu nous remet en quelque sorte un carnet de chèques de la valeur de notre mort, de notre ensevelissement, de notre résurrection avec Christ. Cette valeur est à nous. Elle nous est acquise à l'instant même de notre justification. Mais ensuite, à nous d'aller jour après jour à la banque pour y toucher personnellement et progressivement cette valeur. Le carnet est entre nos mains. C'est à moi qu'il revient de m'en servir d'instant en instant. Nous avons évoqué le caractère progressif de la sanctification. Deuxième exemple, un certain 10 octobre 1970, vous saurez tout, devant monsieur le maire d'une petite ville côtière de Bretagne, j'ai dit oui. Et celle qui est devenue mon épouse ce jour-là a dit oui. Et c'était un oui définitif, comptant sur la grâce de Dieu. Oui définitif, oui historique, oui pour une vie nouvelle. Parce que qui sait si ça a changé beaucoup de choses. Et ce jour-là, en début d'après-midi d'un samedi, je disais aussi non, historiquement et définitivement, au célibat.
ce sont des réalités juridiques inscrites dans des registres vers lesquels nous nous tournons de temps à autre pour obtenir certains papiers figurant sur nos livrets de famille, n'est-ce pas ? Mais est-ce que pour autant, du jour au lendemain, j'ai vécu en époux parfait ? Ah, mes amis, vous savez, hein, plus on se marie tard, plus le célibat colle à la peau. Oh, je n'avais que 25 ans, mais enfin. C'est-à-dire que pratiquement, concrètement, je suis progressivement mort au célibat passé. Et la vie d'homme marié a progressivement grandi. Et ces deux dimensions n'ont pu le faire que sur la base d'un fait juridique. Continuellement, s'il le fallait, du matin au soir et pendant la nuit, je pouvais dire « Ah, 10 octobre, ça a été fait. » Quand on me voyait dans la rue, on ne disait pas « T'es à moitié célibataire, t'es à moitié marié. » J'étais un homme marié et je le suis toujours. Le fait est acquis. Le principe du mariage est établi non au célibat, oui à la vie conjugale. Mais que de chemin parcouru en 30 ans. Et comme nous le disions encore Tina et moi il y a quelques jours en nous entretenant avec quelqu'un sur ce sujet, combien c'est plus beau aujourd'hui qu'hier. Alors, on se réjouit pour l'avenir. On grandit dans le concret de l'union conjugale et le passé du célibat, eh bien, il est mort, mort, mort et de plus en plus mort dans sa réalité. Permettez que je vous laisse un exemple très intéressant. Il s'agit d'un prédicateur qui, aux USA, explique Romains 6. Et il raconte alors l'histoire d'une dame qui vivait dans le sud des États-Unis et qui entretenait une profonde amitié avec le petit ami de son enfance. Elle finit par tomber amoureuse de ce petit ami, finit par l'épouser. Leur vie conjugale n'était pas parfaite, mais satisfaisante. Ils connaissaient la joie de vivre ensemble. Et puis, après des années de vie commune, il meurt d'une crise cardiaque. Et cette veuve se sent incapable de se séparer de lui, alors elle décide de le faire embaumer. Mais aussi de l'asseoir dans une chaise, ou sur une chaise, et de le mettre sous verre, et de le placer tout près de la porte d'entrée à l'intérieur de leur grande ferme. Alors chaque fois qu'elle franchissait le seuil de la porte, elle lui souriait. Elle lui disait « Bonjour Jean, comment vas-tu ? » Et puis elle montait les escaliers. Les mois passèrent, il était là, assis, jour après jour, elle reconnaissait sa présence par un sourire et un salut amical. Puis environ une année plus tard, elle décide d'entreprendre un long voyage en Europe. Et au cours de ce voyage, elle rencontre un Américain très gentil, qui était également en vacances en Europe, et c'est le coup de foudre. Ils se marient, ils passent leur lune de miel à voyager à travers l'Europe, et pendant tout ce temps-là, elle ne souffle mot au sujet de son ancien mari embaumé à la ferme. Et finalement, ils sont revenus, bras dessus, aux États-Unis. Et pendant qu'ils conduisaient sur la route sinueuse qui menait à la maison de son épouse, le mari se disait en lui-même « Ah, le moment est venu de
selon la tradition, hein, de soulever mon épouse pour franchir le seuil de la porte et la porter jusqu'à l'intérieur de la maison. Cet endroit merveilleux où nous allons vivre ensemble pour toujours. Alors il la soulève délicatement, il pousse la porte de sa hanche, il entre et il faillit laisser tomber son épouse sur le plancher. Qui est-ce ? C'est Jean. C'était mon vieil homme. Il fait partie de l'histoire, il est mort. Et le nouvel époux de creuser immédiatement un grand trou dans la terre et d'y enterrer l'ancien mari dans sa caisse de verre. Et le prédicateur de conclure en disant c'est exactement ce que Christ fit. Cependant, sans en mesurer les conséquences, plusieurs chrétiens placent le vieil homme sous verre, le saluent chaque matin et prennent soin de lui tous les jours de leur vie. Nous vivons comme si notre vieil homme était vivant, même si nous sommes morts à son influence néfaste. Il n'a nullement le droit d'occuper nos pensées. Nous servons un nouveau maître qui nous porta pour franchir le seuil de la porte, qui nous éveilla à une vie nouvelle, à un amour nouveau, à une relation nouvelle, à un avenir entièrement différent. Vous êtes mort ? Je suis mort. Vous êtes enseveli, je suis enseveli. Vous êtes ressuscité à une vie nouvelle, je le suis. Nous n'avons plus aucune dette à l'égard du péché. Nous devons vivre jour après jour à cause de ce qui s'est passé un jour sur la croix, dans un tombeau et ensuite sur une montagne. Lorsque le Seigneur est remonté dans la gloire. Alors demain soir, nous terminerons cette pratique de la sanctification en examinant trois aspects de notre nouvelle relation avec Christ et ses conséquences sur l'utilisation de notre corps dans le chapitre 6. Et dans le chapitre 8, avant d'aborder le couronnement, la glorification, ce qui nous permettra, samedi soir et dimanche matin, sur la base de cette fresque extraordinaire du salut, mais vraiment dans sa signification biblique, de donner du relief à cet impératif saisissant de Romains 12. Offrez vos corps. Nous voulons prier. Seigneur, quel ravissement, quel soulagement, quelle libération que de savoir que je suis mort au péché et vivant dans une vie nouvelle en Christ. Merci pour ce fait indéniable, historique, inscrit à un moment de l'histoire de cette terre et dont l'effet est valable pour moi aujourd'hui, demain, jusqu'à ce que tu reviennes me prendre auprès de toi. Seigneur, apprends-nous à vivre en nous nourrissant de ces affirmations fortes et libératrices de ta sainte parole. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu aies payé le prix fort. Merci, tu as payé à ma place ce salaire du péché qui est la mort. Afin que le don gratuit de la vie éternelle soit pour moi. Une fois de plus ce soir, à la fois nous t'adorons, mais aussi, Seigneur, nous nous humilions pour notre légèreté, pour notre flirt si facile avec le péché qui t'a cloué sur la croix. Seigneur, sensibilise-nous d'une manière toute nouvelle à la haine du péché, afin que nous le considérions comme tu le considères. Merci de nous raccompagner ce soir, de continuer à nous renouveler, aussi dans notre compréhension, dans notre intelligence. Élargis nos cœurs, visite-nous dans nos mentalités, pénètre-nous dans notre matière grise et dans notre cœur, dans notre personne tout entière, pour que ça ne reste pas simplement quelque chose d'intellectuel. Révèle-le à nos vies. Fais-le, s'il te plaît, dans ta grâce. Nous t'en bénissons par avance, avec confiance, parce que tu es fidèle. En Jésus-Christ.